« Et voilà, dit-il, et voilà, ainsi passe la gloire du monde. » Les deux Cressets, ahuris et matés, se taisaient. Leur drame personnel se trouvait noyé dans le malheur du royaume. En outre, ils éprouvaient la fatigue d'une nuit de chevauchée, et dans quel équipage. Leur arrivée à Paris au petit matin, montée à deux sur leur bidet cornard et habillée le vieux vêtement qu'ils usaient au champ, avait soulevé le rire sur leur passage. Escortés d'une escouade de gamins criards, ils s'étaient perdus dans le dédale de la cité. Ils se sentaient le ventre creux, et leur assurance, sinon leur ressentiment, avait sérieusement faibli devant la somptuosité de la demeure Ptolémée. Cette richesse partout répandue, ce personnel nombreux, bien vêtu et bien gras, ces tapisseries, ces meubles sculptés, ces émaux, ces ivoires, au fond, pensaient-ils, chacun à part soi, et sans oser le confier à l'autre, au fond, nous avons peut-être eu tort de nous montrer si chatouilleux sur le sang. Une fortune comme celle-là vaut bien un rang de seigneur. « Allons, mes bons amis, » dit Ptolémée avec une familiarité qu'autorisait maintenant leur prière en commun, « venons-en à cette pénible affaire, puisqu'il faut vivre après tout, et que le monde continue, malgré ceux qui s'en vont. Vous voulez me parler de mon neveu, bien sûr, le bandit, le scélérat, m'avoir fait cela à moi, qu'il est comblé de bonté, le misérable garçon sans vergogne. Me fallait-il cette douleur de plus aujourd'hui? Je sais tout. Il m'a fait parvenir un message ce matin. Vous voyez, un homme bien éprouvé. » Il se tenait devant eux, un peu voûté, les yeux à terre, dans l'attitude du pire accablement. « Et lâche avec cela, reprit-il. Lâche. J'ai la honte de l'avouer, mes jeunes sires. Il n'a pas osé affronter ma colère. Il est parti pour Sienne d'un seul trait. Il doit être loin maintenant. « Alors, mes amis, qu'allons-nous faire ?» Il avait l'air de s'en remettre à eux, presque de leur demander conseil. Les deux frères le regardaient, se regardaient. Rien ne se passait comme ils l'avaient imaginé. Ptolémée les observait à travers sa paupière presque close. « C'est bon, se disait-il, maintenant que je les ai en main. Ils ne sont plus dangereux. Il ne s'agit que de trouver le moyen de les renvoyer chez eux sans rien leur avoir donné. » Il se redressa brusquement. « Mais je le déshérite !» « Vous entendez, je le déshérite. Tu n'auras pas un sou de moi, petit misérable » cria-t-il en agitant la main dans la vague direction de Sienne. « Rien, jamais. Je laisserai tout aux pauvres et au couvent. Et s'il me retombe sous la main, je le livre à la justice du roi. Hélas, hélas, le roi est mort. » Les deux autres se disposaient presque à le consoler. Ptolémée les jugea assez préparés pour qu'il pût leur prêcher la raison. Tous leurs reproches, tous leurs griefs, il les acceptait, il les approuvait, même mieux, il les devançait. Mais maintenant, que faire? À quoi servirait un procès, bien coûteux pour des gens sans fortune, alors que le coupable était hors d'atteinte et aurait avant 6 jours passé les frontières? Était-ce cela qui réhabiliterait leur sœur? Le scandale ne nuirait qu'à eux-mêmes. Ptolémée allait se dévouer et s'efforcer de réparer le mal commis. Il avait de hautes et puissantes relations, il était ami de Monseigneur de Valois, de Monseigneur d'Artois, de Messire de Bouville. On trouverait à Marie un lieu où elle mettrait au jour son péché, dans le plus grand secret, et l'on verrait ensuite à lui donner un état. Un couvent, pour un temps, pourrait peut-être abriter son repentir. Confie confiance à Ptolémée. N'avait-il pas prouvé au Cressets qu'il était homme de cœur, en faisant reporter cette créance de 300 livres qu'il avait sur eux?
« Si j'avais voulu, votre château serait à moi depuis 2 ans. L'ai-je voulu? Non, vous voyez bien. »
Les deux frères, déjà fort ébranlés, comprirent aisément la menace que, d'un ton si paterne, le banquier faisait peser sur eux.
« Entendez-moi, je ne vous réclame rien, » ajouta-t-il.
Mais dans une affaire de justice, forcément, il serait obligé de faire état de ses comptes, et les juges pourraient s'étonner que les Cressets eussent accepté tant de dons de la part de Guccio. Allons, ils étaient de braves jeunes gens. Ils allaient se diriger sur une tranquille auberge pour y passer la nuit après s'être bien restaurés et sans se soucier de régler la dépense. Ils attendraient là que Ptolémée se soit employé pour eux. Ils pensaient, dès le lendemain, leur proposer des mesures apaisantes pour leur honneur. Avant tout, éviter le scandale. Pierre et Jean de Cressets se rendirent à ses raisons et même, en prenant congé, lui étreignirent les mains avec quelque effusion. Après leur départ, Ptolémée se laissa tomber sur une chaise. Il était là et soufflait dans ses grosses joues sombres.
« Et maintenant, pourvu que le roi meure, » se dit-il.
Car lorsqu'il avait quitté Vincennes, Louis X respirait encore, mais nul n'estimait qu'il eût beaucoup d'heures devant lui.